Capital sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous. Au micro, Elisabeth Couget.
Et Christina Fautard.
Bonjour Christine.
Bonjour Elisabeth. Dans quelle direction nous amènes-tu aujourd'hui?
Eh bien, nous partons dans les Balkans, dans une ville peu connue. Il s'agit de Skopje, capitale de la Macédoine, une des anciennes républiques yougoslaves. Skopje s'étire sur plus de 30 km sur le long du fleuve Vardar et elle est entourée de montagnes.
Si son climat correspond à la situation géographique que tu viens de décrire, j'imagine Skopje comme une ville où il fait bon vivre.
Alors, tu diras après les détails que je vais donner. Donc, alors, la ville se situe à environ 300 mètres d'altitude. Donc, jusque-là, c'est pas mal. Certaines des montagnes qui l'entourent dépassent les 2500 mètres de hauteur. Et le climat de Skopje peut être considéré comme continental variable, avec une faible influence méditerranéenne qui remonte le long de la vallée du Vardar. Par conséquent, et là ça devient difficile, les températures en été peuvent atteindre 41 degrés et descendent en hiver jusqu'à moins 27.
Oh là là, donc des étés très très chauds et des hivers bien froids.
Voilà, alors si tu trouves tout ça agréable, donc c'est très agréable.
D'accord, si on aime
mais
ça.
Mais bon, alors donc les hivers sont très froids bien sûr et secs. Heureusement, les étés sont longs, permettant de bonnes baignades dans la rivière et de belles promenades au bord du Vardar.
Alors, la capitale de la Macédoine a-t-elle une population nombreuse?
Oui, alors il faut savoir que la Macédoine est un tout petit pays. On peut le comparer à une région française, comme par exemple le Poitou. Charente, Poitou-Charente, voilà. Ou Charente-Poitou, comme
oui,
on veut.
Connais.
Voilà. Du coup, le nombre de ses habitants n'est pas très élevé. Et Skopje ne compte qu'environ 550 000 personnes.
Demi-million.
Intramuros, qui, avec les villes qui l'environnent, atteint 750 000 personnes.
D'accord, donc on ne peut évidemment pas parler d'une mégapole.
Non, je pense pas du tout. Mais cela ne l'empêche pas d'être une très très jolie capitale.
Et qui doit avoir une histoire très intéressante et très différente de la nôtre, compte tenu du lieu où elle se trouve.
Tu as raison Christine, l'histoire de Skopje remonte très loin. Déjà 5000 ans avant Jésus-Christ apparaissent dans ses environs des traces des humains, mais la ville ne commence à se former qu'à 500 ans avant notre ère, grâce à un chapelet de bourgs tout autour de la future capitale.
Et quelles sont les populations qui s'y installent alors?
Alors d'abord les Grecs qui arrivent, car cela leur permet de développer leur commerce depuis la mer Égée vers le nord. Les Illyriens, dont le territoire se situe dans l'actuelle Albanie, s'étalent aussi dans la région entre les sources du Vardar et la région de Skopje.
Skopje, car à ce moment-là, on ne parle pas encore de Skopje, mais de Skopje.
Et oui, on l'appelle cette ville Skopje. Lorsqu'au 4e siècle, lorsqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, l'Illyrien Philippe II de Macédoine, le père du futur Alexandre le Grand, va l'incorporer à son royaume.
Et les Romains, ils arrivent quand?
Alors, 2 siècles plus tard. Les Romains intègrent Skopje, c'est toujours Skopje, et la région à l'Empire, mais 6 siècles plus tard, l'Empire romain, comme nous le savons, se divise en deux, en Orient et en Occident,
oui.
Et les Byzantins prendront le pouvoir jusqu'à l'arrivée à Skopje des Slaves.
Et ça, à quel moment?
Alors c'était entre le 7e et le 8e siècle de notre ère, toujours, et les Slaves vont changer le nom de Skopje en Skopje. Peut-être qu'ils ne savaient pas le prononcer. Et durant un siècle, Skopje sera la capitale du royaume serbe.
Connaissant un peu l'histoire de cette région, je suppose qu'après cela, ce sont les Turcs qui allaient envahir.
Et oui, c'était inévitable. Hein. Et en janvier 1393, les troupes ottomanes entrent dans Skopje et très rapidement, la ville se développe et deviendra un grand centre de l'administration ottomane.
Et 5 siècles d'occupation turque vont suivre.
Exactement. Et alors, je n'ai pas encore parlé des tremblements de terre qui, en 1555, 1000 ans après le précédent, va détruire la ville encore. Mais Skopje, comme Phénix, va renaître de ses cendres, oui. Il va se développer et au cours des siècles qui suivront, va encore subir d'autres attaques, d'autres invasions comme celle des Autrichiens au XVIIIe siècle, qui carrément mettront le feu à la ville et la détruiront en quittant.
en quittant la ville. Mais les Turcs sont toujours là, encore à cette époque, quoique l'Empire ottoman commence à s'affaiblir.
Oui, ça arrive à un moment, mais c'est vrai, les Turcs sont encore là et resteront jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais ce n'est pas pour autant que la ville et le pays seront libres au départ des Turcs. Après, ce seront les Serbes qui reviendront l'occuper. Ouais. Et ça, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et entre les deux guerres, la Macédoine fera partie intégrante du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes.
Ce qui deviendra la Yougoslavie après 1945.
Exactement, et un pays artificiel.
Au fait, Elisabeth, est-ce que Skopje a subi des dégâts pendant cette guerre?
Oui, en 1941, un important bombardement fera plus de 600 victimes civiles dans la ville.
Oui, sans oublier les 3300 juifs de Skopje, exterminés à Treblinka.
Et oui, hélas, car à partir de 1943, les Bulgares, alliés des forces nazies, sont les nouveaux occupants de Skopje pendant un moment, et c'est eux qui expédieront ces malheureux vers les camps de la mort.
Et c'est donc à partir de 1945 que nous parlons de la République de la Macédoine et de Skopje comme sa capitale.
Eh oui, qui se développera malgré deux terribles catastrophes qui la frapperont au cours de la deuxième partie du XXe siècle. En 1962, une effroyable inondation causée par le débordement de la rivière Vardar, et un an plus tard, un nouveau tremblement de terre détruira plus de 50% de la ville, provoquant la mort de plus de 1000 personnes.
Oui, je me souviens du vaste mouvement de solidarité internationale qui aidera à la reconstruction de Skopje.
Alors, nous n'étions que des grands enfants à l'époque, mais nous nous souvenons des images terribles, effectivement, transmises par les médias du monde entier.
Et puis, ce pays artificiel, sorti du néant, qui était la Yougoslavie, s'est désagrégé en 1991.
Et là, on peut parler de la renaissance de la Macédoine, non seulement de Skopje. Nous voici donc dans la capitale de la Macédoine, à Skopje d'aujourd'hui, que nous commençons à visiter.
Virtuellement, bien sûr.
Juste après une première pause musicale.
Вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2, место 15, место 15, место 15, место 15.
Дудели, били куранты, родина нас провожала в эмигранты. Самолеты, поезда, машины, автобусы разбросали нас в разных точках глобуса. Раз, два, три, четыре, пять, не ходите нас искать, мы далеко. Нас уже, пожалуй, не догнать, мы там, где себя не могли представить ранее. Америка, Израиль и Германия. Уезжали, улетали в дальние дали. Переживали, как все будет в начале. Очень осторожно, обойдя таможню в пункте назначения, багаж свой выгружали. Новые места, чужие города, хайвей, бродвей, остальная красота. Пестрая экзотика для нашего глаза рвала крышу сразу. Чему-то нам не спится, все никак не терпится. Узнать да поскорее, что для нас приготовила фортуна лотерея. В следующей главе нашей биографии, в новейшей истории на чужой территории. Кому из нас какая достанется роль? Кто будет нищий, а кто король?
Voilà, vous écoutez Radio Grand Ciel et nous parlons de Skopje, la capitale que nous découvrons aujourd'hui, qui a une histoire si complexe qu'elle n'est pas très facile à comprendre. Elle offre une large palette de couleurs. C'est une ville qui a été si souvent occupée, qui a dû s'adapter à tant de changements et qui a su quitter la Yougoslavie socialiste sans tomber dans le chaos nationaliste où se mélangent tous les peuples des Balkans.
Et comment cela se passe aujourd'hui ?
Alors, de nos jours, à Skopje se côtoient la jeunesse, gentiment rebelle, comme partout, les yougo-nostalgiques.
Nostalgiques de la Yougoslavie.
Exactement. Les victorieux du nouveau capitalisme, les copies des bus londoniens, les Porsche Cayenne, les supermarchés français, les petites échoppes des artisans bijoutiers albanais qui font des merveilles, hein, où les cloches sonnent à l'unisson avec des appels à la prière du muezzin.
À l'unisson, c'est magnifique.
Oui, exactement. Où l'on boit le raki, le vin, le thé sucré, l'expresso italien ou le café turc et même l'absinthe.
Et on trouve tout cela dans une ville qui compte à peine plus d'habitants que le 15e arrondissement de Paris.
Et oui, et de ce fait, on la visite facilement. Et à pied, et dans un laps de temps relativement court.
Est-ce que les deux rives du Vardar, que les Grecs nommaient d'ailleurs Axios, et donc ces deux rives, ce Vardar qui scinde la ville en deux, est-ce que ces deux rives se ressemblent ?
Non, pas vraiment. Sur la rive gauche se trouve la vieille ville, autrement dit, alors attendez, je vais faire un effort, la Stara Karchia.
Stara, comme le russe, vieux.
Ou Karchia, voilà. Ouais. Je n'ai pas le bon accent en macédonien. Alors, qui a conservé ses minarets et les dômes de ses anciens hammams. Curieusement, cette rive gauche n'a pas été détruite, ou si peu. Lors des trois grands tremblements de terre de l'ère moderne, alors que l'autre rive du Vardar a été chaque fois pulvérisée. Et du coup, les deux rives sont totalement décalées et différentes. La gauche nous ramène en l'an 1000 avec sa forteresse du tsar Samuel, alors que la rive droite, inspirée par l'architecte japonais Kenzo, engagé par Tito en 1963, qui voulait absolument que la ville renaisse de ses cendres, après ce tremblement de terre dont on a parlé, et c'est Kenzo qui appliquera à Skopje les principes de l'architecte d'une architecture inventée par Le Corbusier.
Corbusier, le grand architecte français. Et selon ses principes, la ville se développe sur plusieurs niveaux. Des tours sont reliées par des passerelles, voilà, etc. Donc Skopje est comme ça aujourd'hui.
Oui, exactement, c'est un peu ça. Mais dans les dernières décennies, ça a encore beaucoup changé et il est impossible de rater sur la rive droite du Vardar l'enfilade de monuments, de statues, de jolis ponts en plein cœur de la capitale.
Ce qui a doit être le résultat du projet de développement architectural qui s'appelait Skopje 2014. Mais qui en était l'initiateur ?
Eh bien, en réalité, il s'agissait de plusieurs gouvernements qui se sont succédés, qui voulaient affirmer sous forme de symbole fort l'existence de la jeune nation macédonienne.
Et que peuvent penser les touristes étrangers en apercevant ces nouveaux édifices ?
Alors, je pense qu'après les avoir admirés, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de les admirer, ils ne pourront pas éviter de penser à Prague ou même à Budapest.
Pas mal comme référence, donc.
Exactement. Mais le Moldau ou le Danube sont bien plus larges que le Vardar. Donc, c'est plus petit tout ça. Par moments, Skopje fait même penser à Rome en voyant les statues, je dis bien, de style romain, pas romain, puisque
oui,
voilà,
ils
n'en
ont pas. Ouais.
Les façades aux vitres teintées font penser à Londres. Et le grand théâtre est vaguement viennois.
En plus, on a toute l'Europe.
Alors, quant aux bateaux pirates, il y a deux bateaux pirates qui sont accostés en centre-ville. Ça fait rêver les enfants et même les adultes.
Et comme la ville n'est pas très grande, tout cela doit être vraiment réuni dans un minimum d'espace.
Oui, alors en réalité, dans un minimum de temps aussi qui a été réalisé. Mais quand une ville a autant souffert au cours des siècles et par les envahisseurs et par les catastrophes naturelles, elle n'a pas le temps à perdre. Il faut y aller. Il est vrai que cette ville va vous surprendre, Mais n'oubliez pas que vous, les visiteurs, vous venez le plus souvent des pays anciens qui n'étaient ni envahis, ni détruits, maintes et maintes fois, comme la capitale de la Macédoine. Alors, il faut être indulgent.
Mais ce projet 2014, copié 2014, est-ce qu'il a fait l'unanimité dans le pays ?
Non, bien sûr, l'unanimité n'existe que rarement. Mais croyez-moi, le résultat est très très plaisant. Et le touriste se trouve très à l'aise dans cette ville, où après une petite coupure musicale, nous irons nous promener, peut-être sous la rive gauche de Vardar, pour commencer, qui nous ramènera quelques siècles en arrière.
Cette ville a l'air tout à fait attachante et
attirante. Loin de Skopje 2014. Oui, j'en suis tombée amoureuse.
Voilà, ça se sent.
Carolina Jambada. Carolina Jambara. Oh, Carolina Jambara.
Radio Grand Ciel et notre émission Capitale, au micro Elisabeth Couget et avec Christina Fota, nous faisons un voyage de découverte dans Skopje, la capitale de la Macédoine.
Elisabeth, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore évoqué Alexandre le Grand, ou si peu.
Et pourtant, il est bien présent, et dans le pays, et dans la capitale, bien entendu, aux grandes dames des Grecs. Mais nous n'allons pas interférer dans leurs disputes qui durent depuis des siècles. Nous savons que le roi Philippe II était un Illyrien. Alors son fils pouvait-il être un Grec ?
Alors je crois que tu as répondu à la question. Et nous, de toute façon, nous ne pourrons pas trancher à la place des non. Grecs et des Macédoniens. En tout cas, à Skopje, il doit y avoir des statues d'Alexandre le Grand un peu partout, non ? Dans la ville.
Oui, tout à fait. Mais pas sur la rive gauche du Vardar, où vous aurez beaucoup d'autres choses à voir. Pour bien découvrir la vieille ville, je commencerai par visiter la forteresse du roi Samuel, qui depuis plus de 1000 ans domine le Vardar et toute la ville. Pour y arriver, je traverserai le magnifique pont de pierre qui enjambe la rivière. Cette vieille ville est un des meilleurs atouts touristiques de Skopje. Et c'est un joyau car c'est le quartier ottoman le mieux préservé de l'ex-Yougoslavie. Ici, malgré les tensions interethniques, le pays n'a jamais sombré dans la guerre, pas comme là en Bosnie, en Croatie ou en Serbie, où clochers et minarets ont souvent été détruits au cours des conflits du XXe siècle.
D'accord. Et que trouverons-nous donc dans ce quartier? À quoi ressemble-t-il, bon, à part les commerces et l'artisanat?
Alors, il a toutes les caractéristiques d'une ville orientale.
C'est ce que je
comprends. Et non seulement en raison de ses mosquées et de ses anciens imams, je dis bien, nous sommes sur la rive gauche, oui. Mais aussi pour ses ruelles sinueuses et étroites, à cause de ses terrasses, des cafés où l'on boit le thé ou le café turc, tout en jouant au domino.
Tout le charme oriental.
Exactement.
Et il me semble que l'université Saint-Cyrille et Méthode se trouve aussi là.
Alors n'oublions pas que ces deux saints ont créé l'écriture que utilisent les Russes et les Grecs.
L'alphabet cyrillique.
Cyrillique, c'est ça. Alors en fait, la forteresse du tsar Samuel et l'université bordent le vieux quartier. Le quartier se trouve coincé entre les deux, dont un chroniqueur turc décrivait des merveilles au milieu du XVIIe siècle. Et malheureusement, le quartier n'a pas encore été rénové. Il y a des choses à faire, mais c'est vraiment relativement mon état.
Mais de belles visites peuvent vous y attendre quand même.
Ah oui, tout à fait. Faites le tour de la forteresse que le tsar Samuel a fait développer et agrandir au Xe siècle. Mais à l'origine, c'était les Byzantins qui l'ont construite, probablement à l'époque de l'empereur Justinien Ier, aux alentours de l'an 535, donc pas très loin après le premier grand tremblement de terre dont on a parlé tout à l'heure. Les murailles et les tours qui restent toujours debout atteignent plus de 120 mètres à certains moments. Vardar contourne la forteresse, d'où une vue époustouflante et sur la ville et sur les montagnes qui, comme un collier de perles, entoure la capitale de la Macédoine.
Oh, j'imagine, comme c'est beau. Et c'est sur une de ces montagnes, d'ailleurs, que se dresse une croix. Une immense croix visible à 50 km à la ronde et depuis la forteresse.
Et visible même. Aussi, bien sûr. Oui. Tu as raison, Christine, et elle est élevée en l'an 2000. Donc, on l'appelle la croix de Millennium, oui. Qui mesure 66 mètres de hauteur. Et elle est la plus grande croix du monde, éclairée par 640 ampoules, constituant 33 étages qui symbolisent l'âge du Christ. Et le tout est posé sur 4 piliers de 10 mètres de haut qui symbolisent les 4 évangélistes, bien sûr.
Bravo. Après la forteresse, que pouvons-nous encore voir dans cette vieille ville?
Alors en face de la forteresse, il y a la magnifique mosquée de Mustafa Pacha qui est à visiter. Elle date de la fin du XVe siècle, donc quelques temps après l'arrivée des Turcs. Elle est une des plus anciennes mosquées de la Macédoine, tout comme la mosquée de Yahya Pacha, tout près du vieux bazar de Skopje, est à visiter aussi.
Oui. Et puis les bains turcs, dans la vieille ville aussi, non?
Oui, il y en a plusieurs, dont un a été transformé en musée, et ce musée est consacré aux œuvres des peintres macédoniens.
En plus de la vieille ville, beaucoup d'autres choses attendent les visiteurs à Skopje.
Oui, et il faut quand même parler. D'abord, je voulais dire que le mot Balkan, puisque nous sommes dans les Balkans, j'ai découvert en préparant l'émission que c'est un mot bulgare qui veut dire montagne. Et curieusement, la Bulgarie fait le bord des Balkans, mais ça a donné le nom à toute la région, n'est-ce pas? Alors, je voulais parler de la mère Teresa, la personnalité la plus connue, et elle est née à Skopje, où elle a passé toute son enfance, mais elle s'est toujours considérée comme albanaise. En Albanie d'ailleurs, un jour férié lui est consacré, quant aux Macédoniens, à l'occasion du centenaire de sa naissance, un mémorial a été inauguré à l'endroit même où elle a été baptisée.
Donc une pensée pour Mère Teresa spécialement à Skopje.
Exactement.
Et quelles sont les églises à visiter?
Alors avant tout, allons voir la cathédrale Saint-Clément d'Ohrid. Alors Ohrid, c'est un très joli, c'est une ville avec un lac environ à 300 km de Skopje. Et Saint-Clément était un adepte et il aidait justement Cyrille et Méthode. Il vivait à la même époque, voilà. Et donc, ce cette cathédrale Saint-Clément d'Ohrid est non loin de vieux ponts de pierre. Et puis, bon, il y a l'église Saint-Dimitri qui est construite au XVIIIe siècle, ou l'église Saint-Georges et d'autres comme l'église dédiée à la Vierge Marie, sans oublier les nombreux monastères dont certaines datent du XIe siècle dans la ville même ou à l'extérieur de la capitale. Et alors, les églises sont effectivement récentes, parce que n'oublions pas les tremblements de terre. Et tout ça s'est passé de ce côté-là.
Voilà, exactement. Les précédentes. Et quelle est l'ambiance dans le centre-ville ?
Alors, c'est comme dans une autre ville du monde, mais elle est très vivante. Alors, et pour en avoir une idée, promenez-vous sur la place de Macédoine, qui est ornée au milieu par une magnifique fontaine. Et un cavalier d'Alexandre le Grand chevauchant son animal se trouve en son centre. Admirez les belles statues représentant les héros de la nation dans un parc tout proche de la place, très animé. Il y a aussi la belle tour d'horloge turque du XVIe siècle, par exemple, qu'on peut aller admirer.
Elisabeth, j'ai lu quelque part qu'à Skopje, il y a un cimetière militaire français.
Et oui, et c'est très émouvant de voir les tombes de ces soldats de la Grande Guerre venus mourir si loin de chez eux, bientôt 100 ans maintenant. Il y a aussi un centre culturel français très intéressant, sans oublier les nombreux musées de la ville que vous pouvez visiter, bien sûr.
Et puis des théâtres aussi, certainement.
Oui, oui, il y en a plusieurs, et si vous aimez l'opéra, de très beaux concerts vous y attendent, ainsi que la bibliothèque riche de beaux livres. Bref, la culture est présente partout. Et le passé de cette ville se rappelle à vous, en centre-ville ou à l'extérieur, comme en découvrant, à moins de 2 km de Skopje, les 55 arches posées sur des piliers massifs de l'aqueduc romain du VIe siècle.
Eh bien, je crois, Elisabeth, que nous commençons à avoir une image plus ou moins complète de Skopje, cette capitale riche en passé historique, et dont le présent s'appuie sur ce passé.
Et qui ne demande
qu'à être découverte.
Exactement, voilà. C'était donc Capital sur Radio Grand Ciel que nous étions heureuses de vous présenter aujourd'hui avec l'aide technique de notre ami Simon, que nous remercions.
Et merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une prochaine
émission Capital sur Radio Grand Ciel.
Au revoir.
Vous êtes aujourd'hui, 19:30, поезд номер 3. Вагон номер 2, место 15, место 15, место 15, место 15.
Дудели, били куранты, Родина нас провожала в эмигранты. Самолеты, поезда, машины, автобусы разбросали нас в разных точках глобуса. Раз, два, три, четыре, пять. Не ходите нас искать, мы далеко. Нас уже, пожалуй, не догнать. Мы там, где себя не могли представить ранее. Америка, Израиль и Германия. Уезжали, улетали в дальние дали, переживали, как все будет в начале. Очень осторожно, обойдя таможню в пункте назначения, багаж свой выгружали. Новые места, чужие города, хайвей, бродвей, остальная красота. Пестрая экзотика для нашего глаза рвала крышу сразу. Чему-то нам не спится, все никак не терпится. Узнать да поскорее, что для нас приготовила фортуна лотерея. В следующей главе нашей биографии, в новейшей истории на чужой территории. Кому из нас какая достанется роль, кто будет нищий?